nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le plus proche de Georges était Daniel, donc ça peut être aussi bien Daniel que Gilbert. Parce qu'il est mort la veille, oui, et Daniel était chez sa mère. Ça c'est lui qui le dit. Et... il a peut-être menti, alors... Pour le moment, faisons comme si Gilbert était coupable. Après, nous verrons. Le commissaire donne à son chef de bureau le rapport de son enquête. Son chef est dans un bureau plus grand que le sien. C'est un homme grand, mince, blond, avec 35 ans, assez distingué. Il porte un costume gris. Ils sont tous deux assis. Le chef regarde le dossier. Ce Gilbert Framblanc fait bien partie de la famille Framblanc, les Framblanc du bâtiment. Mais ça lui dit, je sais pas monsieur, peut-être. Le commissaire fronce ses sourcils et lui dit, attention, c'est un membre de cette famille, c'est l'une des familles les plus riches du monde. Ils ont des amis de partout. Vous avez envoyé un de ses membres en prison, vous risquez votre carrière et la mienne. J'espère qu'il est bien traité. Oui, monsieur. Et si c'est un membre de cette famille, que faisons-nous? Son chef lui dit, il va falloir se le relâcher, bien entendu. Et l'enquête, le chef hausse les épaules et lui dit, une fille de plus ou une de moins, tâchez de savoir qui est ce Gilbert Framblanc. Commissaire. Nathalie est au salon avec sa mère. On frappe à la porte. Sa mère dit, entrez! Entre la domestique. Madame, il y a un commissaire de police qui désire vous parler. La mère est surprise. Elle regarde sa fille et dit, faites-le entrer! La domestique ferme la porte. La mère demande à Nathalie, qu'est-ce que ça peut bien dire? Nathalie dit, je ne sais pas. Frappe à la porte. Entrez! Entre le commissaire. Mesdames, la mère se lève. Monsieur, elle va à lui. Vous désirez? Il lui dit, commissaire Lepic. Vous êtes Madame Nathalie ? La mère lui dit. Je suis sa mère. Voilà ma fille. Le monsieur Messer fait. Bien, bien. C'est à quel sujet ? Il dit à la mère. Au sujet du dénommé Gilbert Franblanc. Nathalie se lève et demande. Il a eu un accident ? Le commissaire lui dit. Non, mademoiselle. Il était arrêté. Les deux femmes sont surprises. La mère dit tout de même. Ça ne m'étonne pas. Le commissaire lui demande. Pourquoi, madame ? Elle lui dit. Parce que ces gens ne peuvent apporter que le malheur. Le commissaire lui dit. Eh bien, le malheur est arrivé. Il est accusé d'assassinat sur personne de genre. Nathalie fait. Oh ! Le commissaire lui demande. Vous le connaissiez ? Elle dit. Oui, un peu. D'après l'enquête, ce jeune homme comptait partir avec vous. Est-ce vrai ? La mère la regarde surprise. Nathalie dit. Non, en fait, il m'avait demandé, mais j'ai refusé. Le commissaire lui dit. Donc, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a appelé Gilbert Franblanc à son domicile pour lui faire part de son départ avec vous. Et Gilbert, fou de jalousie, l'a tué. Nathalie lui dit. Je ne peux y croire. Elle va s'asseoir dans un fauteuil. La mère dit. Moi, si. Nathalie lui dit. Oh, mère. Le commissaire demande. Vous avez des preuves ? La mère lui dit. Non, mais je le trouvais très possessif vis-à-vis de Nathalie. Le commissaire demande. Ça fait longtemps que vous connaissiez ce jeune homme ? Nathalie lui dit. Oui, assez, quelques années déjà. Et ce Georges de... Non, à peine 2-3 mois. Nous sortions en bande avec Gilbert. Il en faisait partie. Le commissaire lui demande « Comment était ce Georges ?» Elle lui dit « Gentil et très copain. Et son ami Daniel, vous le connaissiez ?»« Oui. Eh bien, gentil sans plus. Comment se comportait-il avec lui ?» Ils vivaient ensemble. Et avec vous ?» Il me parlait très peu. Le commissaire leur dit « Je vous remercie. Vous recevrez une convocation. » Pour mettre tout ça sur papier. Nathalie demande, où est Gilbert ? Le commissaire lui dit, au dépôt. Elle lui demande encore, je peux aller le voir ? Il lui dit, pas pour le moment. Au revoir, mesdames, et merci. Et il sort de la pièce. Sa mère lui dit, je ne savais pas que tu fréquentais un jeune homme. Nathalie lui dit, je ne le fréquentais pas. Et puis mère, vous avez été ignoble. Dire que vous avez ce que vous avez dit sur Gilbert pour l'écraser encore plus, c'est pas bien du tout. Sa mère lui dit, peut-être, mais je crois que c'est un mauvais sujet. Nathalie lui dit, parce que vous croyez que c'est un mauvais sujet, vous l'accusez d'un crime, vous êtes ignoble. Elle se lève et sort de la pièce. Pour aller dans sa chambre. Sa mère, orgueilleuse, sort du salon. Pour aller frapper à la porte de la chambre de sa fille. Entrez, elle entre. Et lui dit. Je suis heureuse. S'il pouvait en prendre 20 ans, sa fille lui dit, mère, sa mère continue, il le mérite. Nathalie lui dit, mais vous êtes ignoble. Il est innocent, il lui dit. Innocent peut-être pour ce crime, mais pas pour d'autres qu'il fera plus tard. Nathalie lui dit, mère, la mère rouge ses épaules et sort de la pièce. Marie, dans la journée, téléphone à Julien dans, au salon. Sa mère la regarde. Allô? J'aimerais parler à Julien, s'il vous plaît. Ah, c'est toi? Je suis Nathalie. Allô, Julien? Tu as su pour Gilbert? Il a été arrêté. C'est terrible. On l'accuse du crime de Georges. Ben, la police est venue. Que faire? Le commissaire, la porte. Je pense que c'était des orfèvres, mais j'en suis pas sûr. Bien, merci. Et elle raccroche. Elle dit à sa mère, Julien va voir le commissaire pour lui dire que Gilbert est innocent. Sa mère ouvre ses épaules et lui dit, qu'est-ce qu'il en sait? Nathalie soupire et lui dit, ça suffit mère, vous êtes méchante. J'aime pas lorsque vous êtes comme ça. Julien, surpris de ce qu'il vient d'apprendre, se dit que Gilbert doit sûrement être innocent. Il décide, malgré ses réticences et sa timidité, d'aller voir le commissaire. Sort de sa chambre. Et dans le couloir, il dit à Marion, je vais à la police, Gilbert a dormi, ne m'attends pas. Et il sort. Arrivé quai des Orfèvres, ça n'avait pas été facile de voir ce fameux commissaire à la porte. C'est tellement grand. Mais un policier assez aimable a eu la gentillesse de le mener jusqu'à son bureau. Il le fait asseoir sur un banc dans le couloir et va dans le bureau. Entrez. Il entre. Puis il est retourné vers Julien et lui dit, le commissaire veut bien vous recevoir. Julien se lève et le policier l'amène jusqu'à la porte. Il ouvre et fait rentrer Julien, ferme la porte derrière lui. Le commissaire est à son bureau, il dit à Julien, approchez-vous, venez vous asseoir. C'est ce que fait Julien. Le commissaire lui demande, vous avez quelque chose à me dire? Julien lui dit, je suis venu au sujet de Gilbert Frambin que vous avez arrêté. Le commissaire lui dit, je vous écoute. Julien lui dit, il est innocent. Mais qui êtes-vous d'abord? Je suis Julien Sève, un ami de Monsieur Framblanc. Le commissaire lui demande, vous vivez ensemble? Intime, très intime? Non, pas du tout. Le commissaire lui dit, très bien, mais pourquoi dites-vous qu'il est innocent? Parce que c'est impossible qu'il soit coupable. Gilbert ne peut pas faire du mal, même pas une mouche. Le commissaire lui dit, oui, mais moi, je veux du concret pour être sûr que ce n'est pas lui. Alors, Julien ne dit rien. Le commissaire lui dit, votre ami n'est pas coupable, mais présumé coupable. L'enquête suit son cours. Julien lui dit, mais moi, je suis sûr qu'il est innocent. D'ailleurs, pourquoi aurait-il tué ce Georges? Ils étaient bien copains. Georges et son ami l'ont aidé un soir qui s'était fait tabasser dans la rue. Alors, elle lui dit, Peut-être, mais Georges voulait Nathalie, la petite amie de Gilbert. Il lui a dit, alors qu'il y a eu une dispute et Gilbert a tué Georges. J'ai un soupir et dit, Nathalie, tu es avec Georges? Le commissaire lui dit, eh oui, comme vous voyez, la chose n'est pas aussi simple que ça, y paraît. Julien lui dit, je ne peux pas y croire, c'est elle qui m'a prévenu. Elle était effondrée. Le commissaire lui dit, pas sa mère en tout cas. Julien lui dit, sa mère ne l'a jamais aimé, Gilbert. Il demande, et pourquoi? Julien lui dit, parce qu'elle est à moitié folle. Le commissaire lui dit, bien, l'enquête se poursuit. Vous allez me donner vos coordonnées pour que je puisse vous contacter. Le lendemain après-midi, Charlotte est dans son salon à lire. On frappe à la porte. Entrez ! Entre le domestique et lui dit, Madame, il y a un commissaire de police qui désire vous parler. Elle est surprise et dit, faites-le entrer, monsieur. Le domestique ferme la porte. Elle se dit, tout doit être à cause de mes contraventions. On frappe à la porte. Entrez ! Entre le commissaire à la porte. Elle se lève et va à lui. Elle lui dit, monsieur. Il lui dit, madame, je suis le commissaire à la porte. J'ai une très désagréable chose à vous dire. Votre fils a été arrêté. Elle fait, quoi? Il lui dit, oui, hélas. Elle demande, pour quel motif? Il lui raconte tout. Lorsqu'il a fini, elle lui dit, c'est encore une histoire avec cette fille. Mais vous n'avez pas le droit d'arrêter mon fils. Vous savez qui nous sommes? Le commissaire sourit. Oui, madame. Elle lui dit, vous allez entendre parler de moi. Je vais demander l'ordre que l'on libère mon fils. Le commissaire lui dit, il n'y a que le parquet qu'il peut, madame. Elle lui dit, je demanderai, qui est ce monsieur parquet? Il lui dit, c'est pas un monsieur, madame. Le commissaire est parti, elle téléphone au bureau de son mari.
Notre fils est arrêté, il est à la paille, il faut faire quelque chose.
Maurice lui dit, ne te fais pas de soucis, ma chérie, ne te fais pas de soucis, je m'occupe de tout ça. Et il raccroche. Il est furieux, notre fils. Ils ont osé le mettre à la paille. C'est 89 qui recommence. Ils vont m'entendre. 89. Un numéro de téléphone. Allô, passez-moi le président. Je suis Maurice. Maurice Blandin. C'est très urgent. Je me moque qu'il soit au conseil des ministres. Pour ce que ça sert, faites vite. J'attends. Allô, Marc. C'est moi, Maurice. Dis donc, qu'est-ce que c'est cette salade? Mon fils, en prison? Vous êtes fou ou quoi? C'est moi qui construis les prisons et vous mettez mon fils en prison? Bien renseignez-vous. Ah. ce temps, dans la maison, au fond de la cour, dans le bureau du vieil homme, se trouve la femme en noir et d'autres hommes, tous assis, en cercle, devant le bureau. Femme en noir demande « Que faisons-nous ?» Le vieil homme lui dit « C'est très délicat !» Un homme grand, blond, en costume noir lui dit « On ne peut pas laisser l'élu en prison !» Le vieil homme demande « Et que faisons-nous ?» L'homme lui dit « Peut-être le faire partir !» Le vieil homme lui dit « Une fois, il sera hors la loi. Non, surtout pas en faire un hors la loi. » La femme aux épaules lui dit « Le faire libérer par nos connaissances. Le président nous doit bien ça. » Dit « Ça ferait changer et tout le monde braquerait le regard sur nous et sur lui. Serait une vraie catastrophe. » Pour nous. Un homme, cheveux blancs, grand, distingué, lui dit « Mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça. Il est accusé de quoi ?» Le vieil homme lui dit « D'un crime. » La femme en noir lui dit « Trouvons le coupable. » Le vieil homme lui dit « Peut-être, mais si la police le trouvait, ce serait mieux. » L'homme à cheveux gris dit « Et c'est comme vous voulez absolument pas l'aider. » Le vieil homme lui dit, « Bien sûr que je veux l'aider, mais d'une façon intelligente. » Tous se taisent et cherchent. Le vieil homme dit, « Je crois que j'ai trouvé. Et cela pourrait faire une bonne publicité pour nos produits. » Ce temps, Maurice est dans le bureau du président Marc à l'Élysée. Ils sont tous deux assis. Il dit, je me suis renseigné. On ne peut rien faire pour le moment. L'enquête doit suivre son cours. Maurice demande, et pourquoi ? Il lui dit, malheureusement, dans la justice, il y a une bande de gauchistes qui risquent de nous traiter de tous les noms. Que voulez-vous ? Ils ont contre la peine de mort, et en même temps, ils la veulent pour ceux qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux. Maurice lui dit, ils vont tout de même pas s'acharner sur lui. Hein ? Non ? Maurice lui dit, Marc lui dit, il n'oserait pas faire une Jeanne d'Arc. Que faire ? Attendre. Et après, faire mettre en liberté provisoire. Maurice lui dit, il me le paiera, celui qui nous a fait ça. Sûrement un anard. Maurice et Charlotte sont effondrés. Charlotte arrête toutes ses soirées.
Nous aurions l'air de quoi ?
Julien est venu les voir et leur a dit qu'il avait été voir le commissaire pour lui dire que Gilbert était innocent. Charlotte l'a embrassé. Nathalie ne parle plus à sa mère. Sa mère lui dit :
Je continue à penser que c'est bon pour nous.
Les jours passent. L'enquête piétine. Le commissaire a parlé à la mère de Daniel. Oui, il est venu me voir de ce jour-là et je l'ai gardé pour la nuit. Il est parti qu'au matin. C'est en partie convaincant. Puisqu'une personne de la même famille qui est accusée peut dire un mensonge, elle ne jure pas. Et c'est considéré comme humain qu'une mère ou une femme mente pour sauver son mari ou sa femme, etc. Daniel ne peut plus vivre dans l'appartement de son ami puisqu'il lui a eu décelé. Donc, il a loué un petit deux pièces. Daniel est guéri de Georges. Il ne pense plus qu'à sauver sa peau. Pour lui, Georges, c'est l'histoire ancienne. Il a retrouvé son calme habituel et même plus calme puisqu'il n'est plus amoureux. Je trouvais même bête de l'avoir été. Je dis que lorsqu'on est amoureux, l'on est bête. Il est redevenu le gentil garçon d'avant, incapable de faire du mal à une mouche. Son crime n'a été qu'un accident idiot, puisqu'il était fou d'amour, et lorsqu'on est dans cet état, l'on n'est pas soi-même. Il ne pense même pas à Gilbert, qui est en prison à cause de lui, et qui risque la prison à vie, c'est-à-dire 20 ans, c'est-à-dire 15 ans, ou 10 ans. Si l'on est sage, très peu de détenus font leur peine en entier. Pour lui, Gilbert, c'est d'histoire ancienne. Julien a eu envie d'aller le voir et de lui demander des questions. Mais il s'est dit que si la police le sait, il risquerait d'avoir des ennuis et peut-être Gilbert aussi. Alors, il vaut mieux pas. Les parents de Gilbert ont demandé de le voir. Leur demande a été refusée. Maurice se dit, ils me le paieront. Les jours passent. Gilbert est dans sa cellule. Essaye de passer le temps. Il reste plus calme. Il dit qu'on va sûrement le libérer et trouver le vrai coupable. La direction de la prison a reçu l'ordre de bien le soigner. Et le fils tremblant, attention. Donc, il a des repas bien faits, apportés lui très tôt. On lui a mis un vrai lit. Une fois par jour, on lui nettoie sa cellule. On lui a amener la télévision, radio et des livres. Il y a des heures de détente seul dans la cour. Le président Marc a convoqué la presse et dit qu'il est interdit que l'on parle de cette histoire. Autrement, suppression de la carte de presse, des journaux, plus de papier, la télévision, radio, plus d'ondes, internet aussi, etc. Personne ne sait ce qui s'est passé. Lorsqu'on demande aux parents où est leur fils, ils disent qu'il est parti se détendre un peu. Un jour, un homme demande à être reçu par le ministre de la Justice. C'est un homme grand, cheveux châtains, habit bicris, lunettes métal, costume marine. Nice demande par téléphone.
C'est pourquoi, l'homme lui dit,
c'est pour résoudre une affaire très importante, l'affaire du crime Georges II, le ministre lui dit.
Je ne vois pas.
L'homme lui dit au téléphone, l'affaire de Gilbert Framblanc. Nistre sursaute et demande,
comment savez-vous ça?
L'homme lui dit, ne vous faites pas de soucis, je suis un ami, un bon ami.
Qui êtes-vous?
L'homme lui dit, un ami. Le ministre lui dit,
je veux votre nom.
L'homme lui dit, mon nom, c'est le professeur Laurie, Jean Laurie. Le ministre lui demande,
professeur de quoi?
L'homme lui dit, cela vous va? Le ministre dit qu'il vaut mieux qu'il le reçoive. Cet homme, s'il est dangereux, comme ça il l'aura à portée de main. Alors il lui dit,
bien, je veux bien vous recevoir, disons demain à 15h, mais vous direz bien votre nom. Autrement, vous ne pouvez pas entrer.
Alors il lui dit, oui, bien sûr, alors à demain. Le ministre prévient la préfecture de police et demande des hommes pour garder son bureau. L'homme peut être dangereux. Tous les gens qui demandent des rendez-vous et qu'on ne connaît pas sont dangereux.
Le vendredi à 15h, le téléphone sonne. Il a décroché.
Oh ? Oui, faites-le rentrer.
Il soupire.
Frappe à la porte. Entrez !
Entre huissier. Il fait passer un homme grand, mince, blond, d'un 35 ans, costume gris. L'huissier dit,
monsieur Laurie.
Le ministre se lève et dit,
venez vous asseoir.
L'huissier fait, monsieur. Et Laurie va s'asseoir en face du bureau.
Lui dit, je vous écoute.
Monsieur Laurie lui dit, monsieur, je suis chercheur scientifique. Je m'occupe tout particulièrement du service du cerveau et de sa longévité. Je crois que je pourrais vous aider dans l'affaire que vous avez en main.
Le ministre lui dit, la science peut aider la justice, mais elle n'est qu'un chaînon de la justice. Et que pouvez-vous faire?
Laurie lui dit, dans la science expérimentale, nous avons trouvé beaucoup de choses, et surtout sur le cerveau. Nous savons maintenant que le cerveau garde à jamais dans sa mémoire, et ceci jusqu'à la destruction en poussière, il garde la dernière vision de la vie. Elles sont gravées à jamais dans le cerveau, c'est ineffaçable. Istre lui dit, c'est une bonne invention, mais je ne vois pas. Lori lui dit, une victime, si on veut savoir qui est, qui c'est qui l'a tué, quels sont ses derniers instants, il suffit de le voir, ce qu'il a vu pour la dernière fois. Mais je lui dis, c'est une bonne idée, mais comment faire ça? Lori lui dit, on branche le cerveau sur un ordinateur spécial et l'on regarde. Pour votre crime, vous regardez les derniers instants de la victime pour voir si Gilbert Franblanc est coupable ou non. Il dit, ce serait très intéressant. Et pouvez-vous le faire? Oui, bien sûr. Vous nous amenez le corps dans mon laboratoire et voilà. Mais je lui demande, et votre laboratoire est où? Dans la clinique Jeune Touriquin. Le ministre réfléchit. Bien, nous allons vous l'amener, mais nous l'amenons quand? Le plus vite possible. Le corps est mort depuis combien de temps? Le ministre lui dit, je vais voir. Il regarde sur son ordinateur et lui dit, 3 mois déjà. Il dit, il faut faire vite, vous comprenez. Moins le cerveau est en décomposition, plus c'est simple. Et le ministre a donné l'ordre de mener le corps de ce qui était déjà enterré de Georges à la clinique Jeune Touriquin. Il a failli demander l'autorisation à la famille, mais on lui a dit que c'était pour une autopsie. Le corps est mené en ambulance à la clinique. Le ministre a donné l'ordre au commissaire qui s'occupe de l'affaire d'être constamment près du corps. Le commissaire Laporte suit le corps. Arrivé à la clinique, le cercueil est mené au sous-sol où se trouve le laboratoire du professeur Lori. Laboratoire secret. La porte reste à la cueille. Il a peur que l'on détruise les preuves. Plus de cadavres, plus de crimes. On ne sait jamais. On dit que la clinique appartient au père de l'accusé. Le cercueil est mené dans une pièce, genre salle d'opération, avec une table. Dépose le cercueil à terre, les infirmières l'ouvrent. Le corps est en mauvais état, il a été déposé, il a été déposé pour l'autopsie. Lori regarde et dit, vous prenez que la tête sur la table, le reste, laissez-le dans le cercueil, il a déjà été coupé. On prend la tête, la recouvre d'un linge, on la met sur la table. On enlève le bandage très délicatement avec des pinces. La tête apparaît avec un visage grimaçant.
toilette, madame.
Et ensanglanté.
Je peux fermer.
C'est pas beau à voir.
Je peux fermer.
Non, c'est pas beau à voir. Du bol au front qui a troué la nuque. L'oreille dit, pourvu que le cerveau n'ait pas été touché. La porte qui a réussi à entrer dans la pièce regarde. Puis se retourne, ça le dégoûte. L'oreille dit, commençons. Par le cerveau.
Ouais.
Après nous verrons. Enlevons le cerveau. Et
tu peux fermer.
Orange. Les cheveux, et on commence à découper le crâne. Creuse avec un burin. Tout autour du crâne, pour prendre du crâne avec un burin tout autour pour prendre le cerveau. Je vais enlever le haut du crâne pour prendre le cerveau.
Tu peux fermer.
On enlève la boîte crânienne. Une chose noire apparaît. On retire et on tire le cerveau qui est tenu par des muscles.
Tu peux fermer.
Et tout. C'est noir et mou. On coupe les nerfs et les tissus qui tiennent le cerveau. On met des pinces. Avec des pinces, on met sur un plateau. Je m'excuse de parler comme ça, mais il faut que j'assiste en direct à l'opération. Alors il faut qu'au fur et à mesure que le médecin et ses aides font le travail, je puisse vous le dire puisque vous ne voyez pas. On amène le cerveau qui se trouve sur le plateau dans une autre pièce. On nettoie avec de l'alcool, on lui met des fils électriques et des tuyaux, de l'électricité pour le réveiller. Un tuyau pour le sang, un autre pour l'oxygène, des rayons laser. Balance pour le réveiller. Le plateau qui est ultra sensible est relié à un ordinateur. L'ordinateur est coupé, capte toute la mémoire qu'il y a dans le cerveau, ou plutôt dans les signaux que le cerveau a gardé en mémoire, à graver à jamais dans sa mémoire. C'est très long. Ça dure des heures. Il faut que l'ordinateur soit en phase avec le cerveau. Et qui s'adapte aux signaux qu'il lui envoie. Après, il faut sélectionner pour ne prendre que les informations concerne ce dont on a besoin. Avant tout ça, il va falloir que le cerveau se remette en marche et dans des conditions artificielles, sans corps. Il a fallu qu'il s'adapte à n'être qu'un esprit qui n'a plus d'informations de l'extérieur et qui pourtant doit donner des informations de ce qu'il a emmagasiné.
Ça a pris une semaine, 24 heures sur 24. Puis le cerveau s'est mis en marche aux derniers instants. Il a donné ce qu'il a vécu gravé à jamais. L'ordinateur a traduit les signes en images vidéo. Et le professeur Laurie, le commissaire Laporte, ont pu voir sur l'écran ordinateur ce qu'avait vu en dernier Georges. Ils ont assisté au crime vu par Georges. Georges qui va ouvrir la porte, qui tombe à la renverse à terre et voit face à lui, debout, un revolver à la main, Daniel qui lui tire dessus. Le sang qui envahit la vision, le trou petit à petit est le trou noir. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morvetti.